La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Au programme du club de la tête au carré ce vendredi, deux nouveaux doctorants qui participeront à la finale 2018 du concours Ma thèse en 180 secondes, une étonnante étude archéologique menée sur le tournage du film Peau d'âne et une opération Manchot racontée aux enfants. Je vous présente les invités de ce club dans un instant. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Daniel.
À la une de la science, vous nous emmenez écouter les tambours en forêt amazonienne.
Et oui, et plus précisément, c'est une langue tambourinée que nous allons découvrir, celle du peuple Bora d'Amazonie qui vient d'être décrite par une équipe du CNRS. On écoute et on traduit avec le linguiste Julien Meyer dans un instant.
Vous pouvez réagir sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Cette émission est réalisée par Fanny Bohuon, elle a été préparée par Sophie Vaud, Thomas Lehété et Anna Massardier.
La tête au carré. Le club avec Daniel Fievé sur France Inter.
Invité du club de la tête au carré, Élise Bordet et Maxime Lopez, deux des finalistes du concours Ma thèse en 180 secondes. Olivier Véler, archéologue qui a fait du lieu de tournage de Peau d'âne un chantier de fouilles. Et Ismaël Khalifa, écrivain et guide en région polaire. Bonjour et bienvenue à tous les quatre.
Bonjour.
Ben voilà, ça c'est en cœur, il y a de l'enthousiasme, ça fait plaisir. Alors comme l'a annoncé Mathieu Vidard la semaine dernière, tous les vendredis jusqu'à la finale du concours Ma thèse en 180 secondes, dont France Inter est partenaire, nous allons faire connaissance avec deux candidats. Aujourd'hui, c'est donc Élise Bordet et Maxime Lopez que nous allons découvrir. Élise Bordet, sur quoi porte votre thèse ?
Je travaille sur la réponse immunitaire du porc face à un virus. Voilà. À l'Institut National de la Recherche Agronomique.
Voilà, et vous allez nous en dire un peu plus hein, dans cette émission, une sorte de parallèle avec les casernes de pompiers pour qu'on comprenne bien le système immunitaire du porc. Maxime Lopez, sur quoi porte votre thèse à vous ?
Alors, je travaille sur la restauration de peintures de chevalet par laser proche du musée du Louvre.
Oui, alors vous, votre laboratoire est en dessous du musée du Louvre. Très classe. Olivier Véler, archéologue au CNRS, vous vous êtes lancé dans un projet absolument étonnant que raconte le documentaire intitulé « Peau d'âme » avec un jeu de mots sur les traces du film de Jacques Demy. C'est un vrai travail très sérieux d'archéologue que vous avez mené sur ce lieu de tournage.
C'est un travail très sérieux, fait avec humour. Un film donc de Pierre-Oscar Lévy, « Peau d'âme », qui est en fait, on appelle ça une comédie musical documentaire. Ah oui. Voilà, qui est actuellement en salle et que je vous invite à aller voir au Nouvel Odéon à Paris.
Et on peut aussi commander le DVD, parce que le DVD
tout
est déjà...
Tout à fait, le DVD et le film est en VOD sur la plateforme de notre distributeur Shellac.
Et puis, nous irons sur les îles Malouines avec vous, Ismaël Khalifa. Vous êtes guide en région polaire, écrivain et vous venez de publier Opération Manchot aux éditions Pulp Fiction. Un récit d'aventure pour enfants inspiré de vos propres voyages, hein, on imagine.
Exactement, c'est inspiré d'expéditions que j'ai emmenées avec des adolescents dans des endroits de nature incroyables. Et là, on part vivre une expédition scientifique au merveilleux pays des manchots et des albatros.
Voilà pour le sommaire. Et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook de La Tête au Carré. Des tambours Bora qui résonnent à la une de la science aujourd'hui à la frontière du Pérou et de la Colombie. Bien avant le Wi-Fi, la 4G ou le téléphone, le peuple Bora d'Amazonie utilisait une forme traditionnelle de télécommunication à l'aide de percussions. Chaque village, encore aujourd'hui, est équipé de deux tambours et le Bora tambouriné permet aux habitants de transmettre des messages, paraît-il, jusqu'à 20 km de distance. Pour la première fois, une équipe de chercheurs vient de décrypter la construction rythmique de cette langue, un travail de linguiste très original. Et pour en parler, Axel, nous recevons l'un des auteurs de cette étude.
Oui, Daniel, nous sommes avec Julien Meyer qui est en direct des locaux de France Bleu à Grenoble. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes linguiste et bioacousticien pour le CNRS à l'Université Grenoble-Alpes. Et pour ces travaux, vous avez aussi collaboré avec le Museo Goldi de Belém au Brésil. Alors cette langue Bora tambourinée avait déjà été décrite par des anthropologues et des linguistes dans les années 80, mais c'est sa construction précise que vous dévoilez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est sa grammaire ?
Alors oui, il y avait eu quelques études, soit par des missionnaires,
soit par des linguistes qui avaient analysé certains aspects, et nous, on est allé plus en détail, là où personne n'avait cherché, c'est-à-dire comment on transforme cette parole en rythme pur, et comment les durées entre les coups nous renseignent sur qu'est-ce qui est codé dans le langage, dans ce système tambouriné.
Alors, pour rentrer directement dans le vif de vos travaux, on va écouter un extrait. D'abord, les tambours joués par Manuel Rios Mieveco, et puis la voix humaine, le Bora, parler. Alors Julien Meyer, qu'est-ce qui relie les deux formes de la langue, puisque c'est bien deux formes de Bora qu'on vient d'entendre ?
Eh ben, on vient d'entendre du coup d'abord la version tambourinée, puis la version parlée par Manuel, qui nous a beaucoup aidé pour cette étude, qui est un des dépositaires et une des personnes qui a la plus grande connaissance sur ce tambour au Pérou. Du côté péruvien, puisque la population Bora est du côté Colombie et Pérou, elle est à cheval sur les deux frontières. Et, le tambour, là, ce qui limite, c'est pas juste un code pur qui dirait, par exemple, un rythme pour un mot et puis un autre rythme pour un mot, sans lien avec la parole. Mmh. Là, on copie des choses on fait un coup par syllabe, mais par contre, ce que nous on a dû chercher, c'est où est-ce que dans la syllabe, à quoi correspond dans la syllabe parlée le coup qui est donné en tambour. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, la durée entre deux coups dans les tambours correspond à la durée entre deux débuts de voyelles dans la parole. Et du coup, c'est pas vraiment la durée des syllabes qui est codée, c'est à cheval sur deux syllabes.
Mais Julien Meyer, pour qu'on comprenne bien, ça s'apparente à du morse ou c'est tout à fait autre chose, cette façon de parler avec un tambour, d'envoyer des messages avec un tambour?
Alors, c'est pas du morse parce que le morse, il code quelque chose en passant par l'écrit. On donne un rythme pour le A, un rythme pour le B, et puis comme ça, on va coder les mots. Là, c'est pas du tout ça. C'est un codage où on donne un coup par syllabe, et donc on imite acoustiquement ce qu'on ressent au niveau rythmique quand on entend la voix normale.
Alors on l'entend bien. Oui, je disais, on l'entend bien. Il y a deux tambours, un aigu et un grave. Est-ce que c'est pour reproduire une partie de la langue parlée ?
Également, oui. Alors c'est clair que la partie sur les hauteurs avait déjà été un peu décrite, et puis elle a été décrite dans d'autres systèmes tambourinés qui existent un peu partout. Ce qui existait, ce qui n'existait pas comme description, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Mais c'est vrai que là, comme on a une langue tonale, on a remarqué que à 100%, chaque syllabe, elle porte soit un ton haut, soit un ton bas. Bah à 100%, le tambour, il va soit jouer le ton haut sur le gros tambour qui est le tambour femelle d'après la tradition Bora. Mmh. Le ton bas, il est joué sur le gros tambour, et le ton haut, il est joué sur le petit tambour. Comme la caisse de résonance est plus petite, le son est plus aigu.
Au passage, on apprend qu'il y a un tambour mâle et un tambour femelle. Ça apporte quelque chose, ça, dans la discussion ?
Ben, en fait, c'est dans la tradition Bora, il y a deux... Il y a le mâle et la femelle qui permettent, d'après les mythes que moi j'ai entendus quand je suis allé là-bas et que j'ai posé des questions sur ça... le mythe dit que pour recréer la complexité du monde avec le langage, c'est bien d'avoir un mâle et une femelle, comme dans la nature en général, pour créer cette complexité.
Est-ce qu'on sait, Julien Meyer, depuis quand les tambours sont utilisés comme moyen de communication en Amazonie ?
Ce qu'on sait, c'est que c'est très ancien, c'est un système de télécommunication très ancien. Ce qui est intéressant, c'est que là, il nous apporte des choses nouvelles des découvertes nouvelles pour l'analyse du langage et de son rythme, qui est une des parties les plus compliquées à analyser. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'autrefois, il y a 100 ans environ, il y avait tous les hommes d'un village savaient jouer sur ce tambour et pouvaient y aller, puisqu'il y en a un par village, dans une maison ronde qui est la Maloka, la maison centrale, et pouvaient passer des messages à partir de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui savent le faire. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans des écrits d'explorateurs du siècle dernier, mais du début du siècle, il y a des gens qui décrivent des choses très intéressantes où, par exemple, les gens arrivaient en canoë. Il y avait comme un petit tambour en kit qu'on dépliait dans le canoë. C'est-à-dire, on mettait des planches et on faisait ces deux hauteurs avec des planches. Alors, c'est pas décrit chez les Boras, mais c'est dans d'autres populations. Et puis, on signalait qu'on arrivait, parce qu'on arrivait avec quelqu'un. Là, c'était un Européen qui était dans le bateau. Il fallait demander l'autorisation de venir dormir dans un village. Et la réponse venait en disant, par exemple, c'est ce qui est décrit dans ce papier qu'on cite, nous, dans notre publication. Il dit, vous pouvez venir, mais mettez vos armes en bas, à l'arrière du canoë quand vous arrivez. Et puis... Et puis approcher doucement, et puis nous, on sera là pour vous accueillir.
Ça permet de montrer patte blanche, en quelque sorte, Axel.
Oui, c'était des communications officielles, et d'ailleurs, on va en écouter encore des tambours Bora avec une annonce officielle. Le tambourinaire annonce la mort d'une personne. On va s'arrêter là parce que le message est répété, on l'entend. Est-ce que vous pouvez vous-même nous traduire le message qu'on entend, Julien Meyer ?
Alors, celui-ci, je ne l'ai pas en mémoire. C'était celui d'avant que j'avais bien en mémoire.
Alors, vous pouvez nous traduire celui que vous aviez compris à l'extrait d'avant. C'est vrai que vous n'avez pas appris à tambouriner vous-même.
Non, j'aimerais bien développer ça en français, mais c'est un long chemin. Alors, et du coup, le message d'avant, il était découpé en plusieurs parties de manière didactique. C'est celui que j'utilise souvent dans les présentations. Et on a une première partie qui montre qu'il y a un appel qui veut dire venez. Hein, l'appel peut être pour autre chose. Il peut dire il y a une réunion, il y a une fête. Là, c'était venez maintenant. Et l'autre, c'était ensuite la deuxième partie. C'était généralement il y a une autre partie que j'avais enlevée, qui est l'adresse, à qui on s'adresse. C'est parce que, bon, comme tout le monde peut l'entendre, il faut dire la personne à qui on s'adresse ou le groupe à qui on s'adresse. Et puis ensuite, là, ce que vous avez entendu, c'était pour faire griller des feuilles de coca.
Ah oui, c'est très précis, c'est très précis. On peut dire vraiment des choses très précises avec un tambour. Merci Julien Meyer de nous avoir fait découvrir cette langue tambourinée qui nous vient d'Amazonie. Un grand merci à vous et merci aussi au studio de France Bleu du côté de Grenoble. Merci à vous Axel Villard et à très bientôt.
À bientôt.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la méga-fusion de 14 galaxies publiée par la revue Nature, la découverte de cette structure immense dans notre univers, laisse les astronomes perplexes. Situé à 13 milliards d'années-lumière de nous, cet amas de galaxies, appelé aussi supercluster, est le siège d'une création d'étoiles ultra-rapide, tant la matière y est brassée et condensée. Les chercheurs estiment que les étoiles s'y formeraient jusqu'à 1000 fois plus vite que dans la Voie lactée. Seul problème, les théories actuelles sur la formation de l'univers explique difficilement comment une structure aussi grande a pu apparaître à ce stade. Une raison supplémentaire pour continuer à l'étudier. De nouvelles inquiétudes autour du Gulf Stream. Ce courant marin de l'Atlantique est en grande partie responsable du climat tempéré en Europe. Deux études cette semaine annoncent en effet que le système de courant océanique de l'Atlantique Nord, qui comprend notamment le Gulf Stream, s'affaiblit. En cause, les glaces de l'Arctique qui fondent massivement et libèrent de grandes quantités d'eau douce en surface. Celles-ci ont de plus en plus de mal à plonger en profondeur et maintenir ce courant actif. Des changements qui auront, selon les chercheurs, des conséquences sur les températures en Europe, mais aussi sur la distribution du plancton et des espèces de poissons et d'oiseaux de l'océan Atlantique. Et pour terminer, une partie de chasse qui s'est tenue il y a 15 000 ans. Des archéologues de l'université de Stanford décrivent une série d'empreintes de pas particulièrement rarissimes laissées dans la vase des bords d'un lac au Nouveau-Mexique. Voici précisément ce que les chercheurs pensent avoir compris. Un paresseux géant, une bête velue d'environ une tonne, errait le long de la rive. Quelque chose l'a effrayé, il s'est dressé sur ses pattes arrière et a frappé ses attaquants qui ont disparu. En regardant plus précisément le sol, les archéologues ont découvert ensuite des traces de pas humains. Pour eux, aucun doute, il s'agit d'une partie de chasse parfaitement enregistrée dans le sol et malheureusement funeste pour le paresseux. Ma thèse en 180 secondes, un archéologue au pays de Podane et une virée chez les manchots des Malouines. On embarque pour le club de la tête au carré dans un instant. Keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous dites des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur speed dial.
hello, téléphone au nouveau keeper. Mon gars, j'ai pas mille pieds si t'as pas mille pièces. It ain't no G-Pass pour un cheap-ass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. Deux doigts pour la politesse. Yes. On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LRE pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la sérotonine. Stunting, braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire, where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mêmes. We eat again, paid again, faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet, by the seashore, sure. Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que j'ai fait, c'est faire des records, puis des faire des records. Oh my god. Est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques? Avec ce genre de flow que mes flows paient chers pour. But I keep the game on lock, and that's childproof. I'm back on my bullshit, entouré de des axes chaque jour et de jour J. On s'apprête à rouler sur Paris, smell la new cheese. Ils pensent tous que je suis ricain quand je leur parle de où je vis. On va prendre notre équipage, réduit sur Air France. Aucun joker, un quart de paire d'os. Ferme le hublot, la nostalgie au perdant. Mais on n'a pas de classe, mis à part la première classe. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mêmes. We eat again, paid again, faded. What I call self-made, self-medicated.
C'était 56K, Laoud, sur la Tête au Carré sur France Inter. Autour de la table du club des Têtes au Carré, l'archéologue Olivier Veller, le guide polaire et écrivain Ismaël Khalifa, et nos deux doctorants du jour, Élise Bordet et Maxime Lopez.
C'est parti.
La Tête au Carré, ma thèse en 180 secondes sur France Inter.
À toi.
Alors Élise Bordet et Maxime Lopez, vous faites tous les deux partie des 16 finalistes du concours Ma thèse en 180 secondes qui se déroulera le 13 juin prochain au Théâtre National de Toulouse. Ce concours est organisé comme chaque année par la Conférence des présidents d'université et le CNRS, France Inter et partenaire. Et tous les vendredis jusqu'au 13 juin, le club de la Tête au Carré recevra deux finalistes. Aujourd'hui, c'est donc avec vous que nous faisons connaissance. Faut rappeler le règlement implacable de ce concours. La thèse en 180 secondes, c'est 3 minutes, mais pas une seconde de plus pour présenter un travail de thèse souvent minutieux, très précis. C'est stressant de faire cet exercice.
Oui, c'est un petit peu stressant parce qu'on n'a vraiment que 3 minutes ouais. pour présenter nos résultats, donc 3 ans de thèse. Et il faut être très précis et faire passer un bon message sans perdre la valeur de nos travaux.
Ouais. Et alors, quand vous présentez, vous avez devant vous le chronomètre. Il défile d'ailleurs aussi derrière vous. Il y a un public hein, devant vous. Il y a souvent les amis, la famille, le petit copain, la petite copine, les équipes de recherche avec lesquelles vous travaillez. La pression est à son comble, non ?
Ouais, on était vraiment sous pression, surtout pour moi personnellement la première fois, puisque c'était la première fois que je disais mon texte et je savais pas s'il allait fonctionner en fait. Ouais. Donc vraiment la finale régionale a été la plus stressante pour moi. Ouais. La deuxième fois, je sais pas pour toi Élise, mais on était à huis clos, donc entre tous les doctorants, notre texte avait déjà visiblement fonctionné une fois, donc c'était moins stressant.
Oui, c'est ça. Parce que vous avez déjà passé deux étapes. Là, c'est voilà, la finale c'est qui va oui, se ça. Jouer, mais il y a déjà eu donc la finale régionale et puis la finale au niveau de votre université. Faut aussi rappeler ce que c'est qu'une thèse dans le parcours d'un chercheur. Donc, parce que tous nos auditeurs, évidemment, ne sont pas forcément au fait de comment ça se passe. Vous avez fait d'abord 5 années d'études minimum, et puis vient ce qu'on appelle la thèse. Vous devenez alors, vous n'êtes pas encore des docteurs, mais des doctorants. Et là, pendant minimum 3 ans, Vous vous enfermez dans un labo, littéralement, et vous ne pensez plus que recherche avec des gens qui parlent recherche, c'est un peu ça?
Oui, voilà, c'est ça. En fait, on est baigné dans le milieu scientifique et donc on a peu de contact avec le public, à part nos proches. Donc ma thèse en 180 secondes, c'est une bonne chose pour sortir un peu de ce milieu-là et revenir un peu à la réalité, parce que c'est sûr que pendant 3 ans, on est en train de travailler et on est très concentré sur ce que l'on fait.
Mais c'est presque un peu étonnant aussi, Maxime Lopez, de se dire, quand on fait une thèse, c'est tellement de travail, c'est tellement de pression, que vous avez eu le courage et l'énergie d'aller en plus vous inscrire à ce concours.
Eh ben écoutez, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, j'ai été vivement encouragé par mes directeurs de thèse.
Ah oui, voilà. Au départ, c'était pas votre idée?
Pas tout à fait, non. Ouais.
Vous regrettez pas quand même?
Maintenant que je suis là, non, bien sûr.
Vous ne pensiez pas que ça vous ouvrirait les portes de la radio nationale?
De France Inter.
De France Inter. Allez, on va écouter un extrait de vos prestations. Pas évidemment les 180 secondes. Alors déjà, vous aviez essayé de faire court en 3 minutes, et nous, on a réduit ça en 45 secondes. Donc ça n'est qu'un extrait. On va découvrir un extrait donc de votre présentation, Élise Bordet.
Adieu jambon beurre. Adieu saucisson à l'apéro. Bientôt, il n'y aura peut-être plus de cochon. Depuis 1987, un virus retors qui n'infecte que les porcs fait des ravages dans nos élevages. Les symptômes se caractérisent par des problèmes respiratoires et de reproduction. En général, les scientifiques vous expliquent qu'ils vont sauver le monde. Commençons par sauver les cochons. Ma thèse s'intitule « Réponse immunitaire innée et adaptative du porc face au virus du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin ». Dans ce cas, la réponse immunitaire, ce sont les éléments protecteurs développés par le porc pour lutter contre ce virus. Et je m'intéresse à un organe clé de cette réponse, le ganglion.
Alors Élise Bordet, les cochons sont vraiment en danger? Il était temps que vous arriviez?
Oui, c'est ça. Non, c'est un petit peu dramatisé pour mettre en perspective mon sujet, mais je travaille sur un virus qui a d'énormes impacts économiques. Et donc je fais partie d'un projet européen Horizon 2020. Qui vise à développer de nouvelles stratégies vaccinales pour améliorer le statut sanitaire en élevage et notamment utiliser moins d'antibiotiques.
Ouais. Et alors, dans votre présentation, il y a tout un jeu de métaphores avec la caserne de pompiers. Et votre but, c'était d'identifier au niveau... Alors, ce que vous appelez la caserne de pompiers, c'est le ganglion dans lequel se prépare la réponse immunitaire du cochon. Et c'est de trouver... parce qu'il y a une des cellules du système immunitaire qui apparemment joue les traîtres au sein de ce système immunitaire. Vous le racontez beaucoup mieux que moi, hein, mais je résume.
C'est exactement ça. En fait, j'ai utilisé une métaphore, la métaphore des pompiers. Donc le ganglion, c'est la caserne des pompiers. Dedans, il y a tous les pompiers qui vont partir au feu, en fait. C'est le lieu d'infection. Le problème, c'est que moi, dans le cas de l'infection sur laquelle je travaille, il y a un pompier pyromane, c'est-à-dire une cellule qui est infectée dans le ganglion. On ne sait pas quelle cellule est infectée et on doit la trouver. Moi, c'est mon but de thèse. Donc j'ai identifié les cellules et ensuite j'ai regardé quelles cellules étaient infectées.
Et vous n'êtes pas loin de soutenir votre thèse, hein. Je crois que c'est en septembre-octobre.
Je soutiens en septembre-octobre, normalement la date n'est pas encore décidée, mais j'ai espoir.
Donc vous êtes un peu à la fin du parcours, vous avez identifié le coupable, vous avez réglé le problème?
On a pu découvrir les cellules qui étaient infectées, on a trouvé les caractéristiques des cellules infectées et donc on va... publier ses travaux en espérant que d'autres rebondiront sur cette découverte pour aller plus loin.
Eh bien, on vous le souhaite. Maxime Lopez, on va découvrir maintenant un extrait de votre présentation. À vous.
Mon domaine, c'est la restauration de peinture. La technique que j'étudie, c'est l'ablation laser, c'est-à-dire le retrait sélectif et contrôlé de matière, du vernis ou de la peinture en l'occurrence, grâce à un faisceau laser. Mais pas n'importe quel laser, un laser impulsionnel. C'est-à-dire un laser qui, par son fonctionnement intermittent, permet d'atteindre une intensité suffisante pour vaporiser la matière. Par exemple, les repeints, c'est-à-dire les retouches effectuées par un autre peintre, qui ont pu être justifiées à l'époque, mais qui peuvent aujourd'hui poser des problèmes, soit parce qu'elles ont mal vieilli, soit parce qu'elles dénaturent l'œuvre originale. Mais l'essentiel de mon travail se déroulant sous le musée du Louvre, je dois quand même vous avouer que j'ai dû résister plus d'une fois aux instances de certains restaurateurs en perdition qui auraient bien voulu utiliser d'ores et déjà ma technique sur de vrais œuvres.
Maxime Lopez, je vous vois sourire. On n'a pas bien choisi?
Si, si, très bien.
Si, ça va. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que certains conservateurs aimeraient utiliser votre laser pour venir ausculter leurs œuvres?
Un peu exagéré, mais pas pour le nettoyage, plutôt pour une autre partie de ma thèse qui est le contrôle et la mesure d'épaisseur en fait de vernis, par exemple.
Alors, ça pourrait servir à quoi cet outil, hein, très minutieux?
L'idée, c'est vraiment de développer un scalpel optique, donc quelque chose qui soit encore plus précis que les méthodes traditionnelles utilisées par les restaurateurs aujourd'hui. Et qui serait vraiment donc un outil supplémentaire. Donc il ne s'agit pas du tout de remplacer leur technique traditionnelle quand elle fonctionne, mais plutôt de leur donner un outil supplémentaire dans les cas de restauration délicate, ce que j'appelle un peu les patients inopérables.
Mmh. C'est ça, parce que vous, on ne l'a pas mis dans cet extrait, mais vous vous dépeignez comme le docteur House de l'art.
Voilà, c'est ça.
Les cas désespérés, les plus difficiles à comprendre, grâce à vos outils et vos façons d'investiguer, vous espérez trouver des solutions.
Voilà, c'est ça. En fait, moi j'ai des connaissances en physique des lasers et j'aimerais apporter ces connaissances donc aux praticiens, aux restaurateurs.
Ouais. Vous avez un parcours intéressant, hein, parce que comment on est comme ça à la frontière entre l'art, la physique, comment vous êtes arrivé?
Alors, en fait, moi j'ai une formation de physicien, donc comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai une licence de physique, j'ai un master d'optique instrumentale et un master de spectroscopie un peu plus théorique. Et à la suite de mes études, donc j'ai pas trouvé immédiatement de bourse de thèse, puisqu'en sciences dures, on est obligé d'être financé pour pouvoir faire une thèse. Et en fait, donc, je suis allé enseigner dans le secondaire après mon master. J'ai fait un peu de collège, un peu de lycée. Et j'ai fini par trouver en fait un sujet de thèse qui correspondait exactement à mon parcours, c'est-à-dire physique des lasers et spectroscopie, qui s'intitulait donc développement d'une technique de nettoyage des peintures. Et je ne savais pas à l'époque si c'était du graffiti ou si ça serait plutôt.
Ouais, finalement, vous êtes au Louvre.
Donc,
pour le moment, c'est pas trop les graffitis.
Mon interview s'est déroulé au Louvre finalement.
Ouais. Vous vous sentez prêt l'un et l'autre pour cette finale qui aura lieu le 13 juin, Élise Bordet?
On n'y pense pas trop, en fait, c'est dans longtemps et on est. Enfin, moi, c'est la fin de ma thèse, donc je suis assez occupée.
Vous avez d'autres raisons de stresser pour pas vous embrouiller
voilà,
avec celle-là.
Voilà, au moins on peut occulter facilement ma thèse en 180 secondes.
Oui, Maxime Lopez.
On est arrivé jusque-là, donc maintenant c'est vraiment que du bonus, quoi.
Ouais.
On est en finale.
Bon, c'est bien, vous êtes serein.
Hein,
vous êtes, qu'est-ce que vous pensez, Olivier Weber, de cet exercice de la thèse en 3 minutes?
Moi, je trouve que c'est un exercice formidable. D'abord parce que ça forme les futurs chercheurs CNRS ou universitaires à la communication.
Ouais.
Et c'est souvent en France... j'allais dire une sorte de clou qu'on traîne dans la chaussure, nous, le monde de la recherche, parce qu'on est de très mauvais communicants par rapport au monde anglo-saxon, par exemple. Donc, je trouve que c'est un exercice, mais vraiment qu'on devrait même imposer à tous les doctorants.
Ah oui, oh bah, imposer, peut-être qu'ils le feraient avec moins d'entrain. En tout cas, on vous souhaite bonne chance l'un et l'autre. Et puis, les auditeurs qui souhaitent voir votre présentation de 3 minutes en entier, en vidéo, ils peuvent se rendre sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et je rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Facebook pour consulter notre page Facebook. Merci à tous les deux, Élise Bordet et Maxime Lopez.
Merci.
Dans un instant, on part faire de l'archéologie sur le lieu de tournage du film Peau d'âne de Jacques Demy.
Supporting my feet.
Twin Shadow, c'était Canine.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Le club avec Ismaël Khelifa, écrivain et guide en région polaire, Élise Bordet et Maxime Lopez, deux des finalistes du concours Mathèse en 180 secondes, et Olivier Veller, archéologue.
C'est l'étrange histoire de la fouille archéologique des lieux de tournage d'une œuvre de cinéma.
Ça ressemble de plus en plus à une coquille d'œuf. Hein. Moi, je suis venue fouiller Podane pour retrouver les coquilles d'œuf.
Ce qu'on a trouvé en quantité assez importante, bah, c'est ça.
Ça, c'est des petits strass Swarovski qui sont en fait, c'est comme des griffes, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont déjà sertis. Ça pourrait être sur les costumes.
Pour nous, c'est l'arrière du miroir.
Ça pourrait être aussi le manche de la baguette.
Et vous ne l'avez pas vu, la baguette, à la Cinémathèque ?
Si, mais justement, la baguette...
Il manque des pièces ?
Il manque des pierres.
Ah, si on complète la baguette avec ce qu'on trouve ici, c'est très joli.
L'archéo me sort du logis, tâche infinie. Tous mes gestes qui s'enchaînent, je la fais reine. Creuser, gratter en vaut la peine. L'archéo me met à genoux. Archéo, chaos.
Extrait du documentaire Podam sur les traces du film de Jacques Demy réalisé par Pierre-Oscar Lévy. Le film vient de sortir en DVD et dans une salle à Paris, le Nouvel Odéon. Olivier Veller, vous êtes archéologue au CNRS et c'est vous qui avez eu l'idée de ce projet un peu fou. Fouiller les vestiges du film de Jacques Demy. Alors on est assez loin de votre spécialité originale, institutionnelle, puisque vous, normalement, c'est l'exploitation et les enjeux du sel au néolithique qui vous occupe. Et là, on vous retrouve dans les coulisses de ce tournage.
Donc oui, normalement je suis quelqu'un de très sérieux.
Voilà.
Je suis un préhistorien et je suis un néolithicien plus précisément, qui travaille sur quelque chose d'invisible.
Ouais.
Le sel se conserve par ma spécialité, c'est la production, le commerce, voire le contrôle politique du sel, matière qu'on appelle aussi l'or blanc quand même. Mais c'est quelque chose qui est invisible en fouille. Et en fait, la fouille de Podane, c'est aussi fouiller une fiction, c'est fouiller l'imaginaire, de l'imaginaire, la production de l'imaginaire, le cinéma, si c'est pas ça, le cinéma. Et c'est aussi fouiller notre propre enfance. Parce qu'on est très nombreux à avoir vu Podam en 1970. C'est un film qui est toujours rediffusé tous les Noëls sur n'importe quelle télévision depuis presque 50 ans.
C'est
Et c'est un film véritablement transgénérationnel. C'est un film dont, et c'est le cinéma demi. Et pourquoi ça fait ça, Podam? Parce que c'est un conte de fées.
Ouais.
Et ce conte de fées, il est une histoire. Et donc, cette archéologie, c'est l'archéologie de décors de cinéma, d'accord, de 1970, donc le film, mais c'est aussi une archéologie de cette histoire. Qu'est-ce que cette histoire? D'où vient-elle? Perrault l'écrit en 1694, mais en revanche, il s'inspire d'autres contes italiens, en l'occurrence. Ces contes eux-mêmes s'emboîtent, vous voyez, donc c'est une sorte de mise en abîme, comme ça, et le film est un film à la fois poétique et très scientifique, et qui raconte, pour une fois, la science en train de se faire.
Oui.
Regardons, les archéologues, c'est quoi leur métier? C'est de mettre la main dans la terre.
Oui,
qu'est-ce qu'ils voient, les archéologues, dans la vraie vie? Des vers de terre passer devant leurs yeux.
Oui. Pas seulement, mais en partie des vers de terre. Alors, vous êtes allé fouiller où exactement pour...
Donc, la fouille, là, c'est un des châteaux utilisés par Jacques Demy, qui est le château de Neuville, à Gambais, dans les Yvelines. Et donc, on s'est intéressé surtout à la cabane de Podane.
Oui.
Donc, la cabane qui a été construite par les décorateurs en 1970, dans le parc du château de Neuville, et il s'avère qu'un des propriétaires du château est devenu archéologue, est un collègue à moi, et un jour, lors d'un colloque en 1999 à Nantes, justement à Nantes, la ville de naissance de Demy, on discute à la machine à café, comme c'est raconté dans le film d'ailleurs, et puis il me raconte le film de Podane, mais pas du tout ce qu'il y a dans les images. Et en fait, il me raconte ses souvenirs d'enfant de 8 ans qui avait assisté au tournage. Et je me dis, oh, il faut absolument faire quelque chose de ça. Cette aventure est magique.
Mais alors, pour passer de la discussion devant la machine à café en se disant, il faudrait le faire, et finalement le faire vraiment, ça a dû... Déjà, ne serait-ce que quand vous avez contacté le ministère de la Culture pour dire, on veut aller faire une fouille à cet endroit-là, on veut une autorisation, qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Donc oui, d'abord, ça a mûri... presque une dizaine d'années, puis après l'idée c'était d'en faire effectivement aussi un hommage à ce cinéma, donc d'en faire un film. Donc j'ai contacté un producteur qui a choisi Pierre-Oscar Lévy comme réalisateur pour réaliser Peau d'âme. Mais effectivement, il y a une vraie démarche archéologique derrière, c'est-à-dire que pour une fois, préhistorien, on n'a pas de gens qui parlent. Là, enfin, on pouvait avoir, on pouvait confronter la réalité matérielle de nos vestiges. Aujourd'hui, c'est 4000 objets. Sur 100 mètres carrés de fouilles.
Vous avez retrouvé 4000 objets qui proviennent du tournage de Peau d'âne.
Voilà,
quel genre d'objets? Qu'est-ce que vous avez retrouvé?
Alors, donc, l'idée, c'est croiser ces objets avec les témoignages, puisqu'on a encore des gens vivants, des acteurs, des techniciens, des figurants, et croiser aussi avec une autre source d'information que le préhistorien n'a pas, qui est les sources écrites, c'est-à-dire les archives de la production. Ouais. Donc, la famille Varda-Demy nous a ouvert ses portes, et puis on a pu étudier les dossiers presse, le premier scénario manuscrit écrit par la main de Jacques Demy, les photos de tournage. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces 4000 objets? Il y a trois mondes, si j'ose dire. Il y a ce qu'on voit à l'écran dans le film de Jacques Demy. Alors, évidemment, le truc le plus classique, si j'allais dire, c'est les strass Swarovski, dont des fragments de la robe couleur soleil que porte Catherine Deneuve quand elle fait son fameux cake d'amour. Et je rappelle que ces robes ont disparu, que ces robes n'existent plus. Donc, nous avons retrouvé les seuls témoins.
Traces.
Voilà, exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et puis, on a aussi, sur la même zone, tout le monde de la technique du cinéma de la fin des années 60. Donc, c'est la nouvelle vague, en fait, parce que Demy est un héritier de ce courant. Donc, c'est, en fait, on va retrouver, des vis de projecteurs, des ampoules de projecteurs qui ont explosé, des ampoules très bleues qu'on appelle des floudes. Et puis, on va trouver, sur le même terrain, une fois de plus, le troisième domaine, si j'ose dire, qui est la vie domestique de l'équipe. Ça veut dire des mégots de cigarettes, des fumes-cigarettes, des capsules de bière, des bouteilles d'eau minérale brisée. Voilà. Et tout ça au même endroit. Et ça raconte trois histoires différentes.
C'est de l'archéologie quand on travaille sur... c'est un tournage qui a lieu dans les années 70, donc c'est une période relativement récente. Est-ce qu'on est encore en train de faire de l'archéologie quand on remonte à des...
L'archéologie, c'est pas une histoire de date. Ouais. L'archéologie, c'est une histoire de démarche. Et donc là, l'idée, c'est de l'archéologie, j'allais dire, dans tout ce qu'elle a de plus pur, puisque elle peut à la fois tester ses propres raisonnements à partir d'une fouille sérieuse. Nous, on le fait à la manière d'un campement préhistorique, si j'ose dire. Mm-hmm. Donc, avec ces 4000 objets, elle raconte quelque chose. Elle en déduit, avec les outils classiques du préhistorien, des hypothèses, et qu'elle va pouvoir confronter pour une fois ces hypothèses avec des témoignages. Ouais. Et ça ne colle pas. Les souvenirs sont complètement transformés, ou elle va pouvoir aussi confronter ses hypothèses avec les archives du film.
Ouais. Alors vous vous intéressez aussi, vous l'avez dit, au conte que le film met en scène, avec au cœur la question de l'inceste et de l'amour inconvenant d'un père pour sa fille.
Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa.
La Fée des Lilas prodiguant ses conseils à Catherine Deneuve, Peau d'âne. Olivier Véler, dans le film, on vous entend fredonner très élégamment cette chanson.
Merci.
Je ne vais pas vous demander de le refaire ici pour nous. En revanche, expliquez-nous ce travail, là aussi archéologique, que vous menez pour retracer vraiment la généalogie de ce conte et essayer de remonter aux origines de Peau d'âne.
Voilà, c'est ce que raconte le film Peau d'âne. C'est cette quête, de l'origine. Donc, on fouille un conte de fées mis en image par Jacques Demy, qui lui-même s'inspire en fait non pas du conte de Perrault, mais d'une version de Colin de Plancy de 1826, qui lui-même s'inspire donc évidemment du conte de Perrault 1695, qui lui-même s'inspire. Ouais. Voilà, donc c'est un jeu de poupées emboîtées, et en fait on s'aperçoit après qu'il faut aller chercher dans la tradition orale, c'est-à-dire là où il n'y a plus d'écriture. Ouais. Et en fait que si on joue à ce petit jeu, on remonte au minimum à l'Égypte ptolémaïque, on est en moins 300 avant Jésus-Christ, voire beaucoup plus loin, et notre film, Peau d'âme, se finit à la grotte Chauvet.
Ouais. C'est le vertige des origines.
Exactement.
On peut toujours remonter plus loin.
Oui, c'est une sorte de mise en abîme, mais faite de façon amusante. C'est-à-dire que le film, il est à la fois poétique et à la fois c'est faire de la science en s'amusant. Ouais. Donc c'est très sérieux, mais on s'amuse et faut rire. Faut en rire.
Ouais, faut en rire. Alors le ministère de la Culture, vous m'avez pas répondu à
ma
question.
Pardon. Alors
qu'est-ce qui rigole de ce projet?
Quand j'ai fait la demande, étant un professionnel, CNRS, je fais ma demande au ministère de la Culture et donc la réponse a été mais non, votre opération ne correspond pas à ce qui est écrit dans la loi du patrimoine. Et or, le code du patrimoine ne dit absolument rien sur une date il n'y a pas de date, de limite, de début, de fin d'archéologie. Et en fait, dans les pratiques, en France, où on est très en retard par rapport au monde anglo-saxon ou américain, dans la pratique, en fait, l'archéologie, inconsciemment, hein, c'est quand il n'y a plus de gens pour parler. Donc aujourd'hui, la Première Guerre mondiale, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'on prescrit lors de travaux autoroutiers ou je ne sais quoi, d'archéologie préventive, la Première Guerre mondiale passe sans problème. La Seconde Guerre mondiale, on commence à fouiller des camps de prisonniers allemands, entre autres, jusqu'en 1947. Mais après, bah, il y a la parole, il y a des gens, il y a des souvenirs, et donc ça ne rentre pas, en tout cas de façon inconsciente sûrement, dans l'archéologie.
Ça ne vous a pas empêché de mener à bien ce projet, et même, si j'ai bien compris, vous n'en avez pas terminé avec ce site
de
fouille.
Et cette fouille n'est pas terminée. Et donc, comme elle n'est pas agréée par le ministère de la Culture, ben, elle n'a pas de subvention, elle n'a pas de financement. Et là, on veut terminer la fouille cet été 2018, là au mois d'août, donc dans le parc du château de Neuville à Gambay. Et puis, donc on a dû lancer un financement participatif sur Ulule, qui s'appelle Archéologie du Merveilleux. Voilà, et j'invite les auditeurs à pouvoir participer à ce projet un peu fou, mais en réalité très sérieux.
Oui, c'est ça, un peu fou, mais mené avec un extrême sérieux. Exactement. C'est ce qui est très réjouissant. On va mettre le lien vers le site Ulule et le financement participatif. Et puis, évidemment, pour ceux qui souhaitent voir le documentaire, donc Peau d'âme sur les traces du film de Jacques Demy, réalisé par Pierre-Oscar Lévy, il y a le DVD qui vient de sortir.
Le DVD, il est en VOD et il est actuellement au Nouvel Odéon à Paris, dans le 6e arrondissement. Et il ne demande qu'à sortir de Paris. Donc s'il y a des exploitants qui écoutent cette émission et qui cherchent à voir le film à l'extérieur du périphérique parisien, ce sera avec un plaisir qu'on viendra l'accompagner.
Eh bien voilà, le message est passé. Merci à vous, Olivier Véler. Dans un instant, on met le cap sur les Malouines pour une opération Manchot.
Boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, ô déesse de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune punch, box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. Ô déesse de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, 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 il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de les champions. Box, quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent, répandant leur chapelle dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, box. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin, viens me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire. Boxe comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes poings. Même si dans les coins, box, box, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir. Box, 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 box.
C'était Claude Nougaro, 4 boules de cuir, et la programmation musicale de La Tête au Carré est signée Thierry Dupin.
Le Club sur France Inter.
Le Club en compagnie de Élise Bordet, Maxime Lopez, deux finalistes du concours, Ma thèse en 180 secondes, Olivier Véler, archéologue, et Ismaël Khalifa, journaliste, guide en région polaire et écrivain.
Je les reconnais, ceux-là.
Vous les reconnaissez, oui. Ismaël, pour vous accueillir.
Des manchots papous.
Des manchots papous, exactement. Ah, vous avez l'oreille, hein. On sent que vous les avez croisés. Vous venez de publier aux éditions Pulp Fiction, Opération Manchot, un livre pour les enfants qui raconte l'arrivée de quatre ados, Fatou, Hugo, Vicky et Yanis, sur un nouveau territoire inconnu pour eux, les Malouines. Et ils vont faire connaissance avec une fermière scientifique qui s'occupe des manchots et des albatros, participer à des études scientifiques sur les oiseaux, qui vivent sur ces îles très nombreux. Et puis, évidemment, ils vont être confrontés à des péripéties, comme un grand incendie. Vous aviez déjà emmené cette fine équipe au Groenland dans un précédent ouvrage. Cette fois, c'est les Malouines. On change d'hémisphère. Donc, rappelez-nous où se situent les Malouines.
Alors, les Malouines, c'est un petit chapelet d'îles qui se trouve à la pointe sud, côté sud-est de l'Argentine. Et en fait, on dit généralement que c'est l'une des dernières portes avant l'Antarctique.
Ouais.
Donc, on est vraiment aux portes de l'océan austral, dans un monde absolument mystérieux, très méconnu, et qui est donc le lieu de vie de toutes ces espèces incroyables que sont les albatros, les plus grands oiseaux du monde, et les manchots, qui ne sont pas les plus grands, mais qui sont très mignons et vraiment passionnants en termes de science également.
Ouais. Alors, on comprend votre intérêt pour cet endroit. Vous avez choisi cet endroit pour quelle raison? Donc, le premier, c'était au Groenland. On sent déjà l'intérêt pour les régions polaires, en tout cas proche des pôles.
Alors, j'ai choisi cet endroit parce qu'il y a environ un an, j'ai découvert... Alors, j'ai été guide, c'est-à-dire que j'ai emmené beaucoup de touristes, de passagers dans ces régions. Il y a un an, je suis allé pour la première fois sur une île qui s'appelle Steeple Jason, donc qui se trouve au large des Malouines. Et en fait, c'est vraiment l'île de pirates qu'on a dans les livres d'enfance. C'est une grande île qui sort comme ça de la mer, entourée de milliers d'oiseaux, avec aucun homme qui vit dessus, des lions de mer un peu partout, des manchots. Et on débarque là-dessus, on a l'impression qu'on est aux premières heures du monde. Et en fait, j'y suis allé, j'ai eu un coup de cœur terrible pour cette île. Il se trouve que je me suis perdu dessus également en cherchant les albatros, dans des grandes herbes où, il paraît-il, il y avait des lions de mer, donc on avait un petit peu peur. Et j'étais avec cette jeune fille dont je parle dans le livre qui s'appelle Marilou, qui est la guide en fait des adolescents, alors c'est fictionné le livre, mais elle existe vraiment, une jeune Française de 23 ans qui vit aux Malouines et qui a grandi en Antarctique sur un voilier, on la surnomme le sourire de l'Antarctique, et elle vit avec ses parents dans une ferme où il y a 5000 moutons, et donc ils s'occupent des moutons, en même temps ils protègent les manchots et les albatros, et ils vont accueillir ces quatre gamins, ces quatre ados venus d'horizons complètement différents pour leur ouvrir les portes de ce monde.
Alors, en vous entendant raconter, on commence à voir les passerelles qu'il y a entre la réalité, ce que vous avez vraiment vécu, connu, et puis votre livre, ne serait-ce que Le Sourire, c'est le nom du bateau sur lequel vos aventuriers vivent leurs aventures. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi la fiction, alors que vous auriez pu aussi faire un récit de voyage beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sur ce que vous aviez vraiment vécu?
Eh bien, déjà parce que je n'avais pas envie de parler avec un jeu. Je ne me considère pas du tout héroïque dans mon existence. Donc, par contre, j'ai eu la chance d'emmener pas mal d'enfants et d'adolescents dans des expéditions au Groenland, au Kerguelen, en Antarctique.
Ouais.
Et à chaque fois que je les voyais avoir des réactions absolument incroyables, et travaillant déjà dans des documentaires d'aventure comme l'émission Rendez-vous en inconnu à l'époque, et bien je les regardais, je me disais mais c'est du cinéma quoi. Ouais. Je me souviens d'avoir emmené par exemple un petit garçon qui s'appelait Mohamed, 14 ans, au Kerguelen, donc terre où le CNRS d'ailleurs est très présent, beaucoup de manchots, etc. On arrive devant 200 000 manchots qui étaient posés sur la plage, moi c'était le rêve de ma vie. Je pleure et je fais ce truc d'adulte en disant regardez comme la planète est fragile, mais comme elle est belle, vraiment c'est incroyable, ça dure une demi-heure. Et je me retourne et je vois Mohamed qui était en train de jouer avec Kevin à un jeu vidéo sur son smartphone, en tournant le dos aux manchots. Et là je me suis dit waouh, ça va être chaud.
Ouais.
Mais en même temps, quand on part de là et qu'on arrive à émerveiller ses enfants, il y a toute une arche narrative en fait qui se crée dans la vraie vie et qui est formidable à réutiliser en fiction. Et donc la fiction, l'avantage c'est aussi qu'on peut un peu plus se lâcher et leur faire vivre des trucs un peu fous. Donc cette forme-là était beaucoup plus ludique pour moi, beaucoup moins donneuse de leçons et beaucoup plus dans l'histoire, dans l'aventure, dans le rire aussi, parce qu'ils se marrent beaucoup quand même. Et donc je pouvais passer à travers plein de choses grâce à la fiction que le documentaire ne m'aurait pas permis.
Et alors, dans quel cadre, vous le dites, vous êtes parti sur le terrain vraiment en expédition avec des jeunes, avec des ados, comment ça s'est fait ces expéditions?
Ça s'est fait à plusieurs reprises, des fois avec des associations ou des ONG qui me demandaient d'emmener des jeunes. Par exemple, lors de la dernière COP21, j'avais été sollicité par une association qui s'appelle Les Petits Citoyens pour accompagner quatre enfants de primaire au Groenland, rencontrer les chasseurs groenlandais face à la fonte des glaces. Vous parliez du Gulf Stream tout à l'heure, on était au cœur de cet enjeu-là. Et puis, cette envie de partager ces territoires, un jour j'ai emmené mes parents sur place, mes parents qui vivent à Annecy, en Haute-Savoie, dont sont originaires les quatre ados.
Oui.
Et ils n'avaient jamais voyagé dans tout ça, et leur émerveillement incroyable m'a fait me dire, mais il faut que je sois guide. Ouais. Parce qu'en fait, j'adore faire des surprises à mes parents tous les matins. Et donc, j'ai passé mes dernières années à emmener le papy boom se promener dans ces territoires. Ouais. Et donc, je faisais des surprises à des gens qui avaient l'âge de mes parents, tous les matins, qui venaient d'horizons très différents. Et c'est quand même fou d'emmener des gens qui, des fois, ont fait des grandes carrières dans le pétrole, parce que c'est des destinations très chères, et qui un jour viennent vous dire, après 15 jours dans les glaces, je ne savais pas que la planète, c'était ça. Ouais. Je pensais que c'était un grand terrain de jeu, en fait. Ouais. Et qui, d'un coup, repartent, ça n'a pas changé leur vie, ils reprennent leur voiture en revenant. Mais avec un amour de la nature tel que ça devient une question pour eux aussi.
Ouais. Accélérateur un peu de prise de conscience, le voyage. Vous le vivez un peu comme ça?
Oui, et au-delà de la prise de conscience, je dirais que moi, ça m'a fait ça, et je pense à eux aussi. C'est que quand vous voyez, par exemple, j'ai passé 4 mois en Antarctique l'année dernière, quand toutes les semaines vous revenez au même endroit, vous voyez un manchot, il est là une semaine, deux semaines, vous le voyez grandir, etc. Et puis le voisin d'à côté, la semaine d'après, il a plus là, il a été tué par un prédateur et tout. En fait, ça vous prend dans les tripes. Mm-hmm. Et donc, au bout d'un moment, quand on jette un déchet à terre et qu'on sait qu'il va se retrouver en mer et tuer un animal marin, et ben c'est comme si on jetait un déchet sur votre mer, ouais, un peu. Et alors, ça fait un peu grandiloquent de dire ça, mais je vous promets qu'on le ressent comme ça, ouais, au bout d'un moment.
Je vois Olivier Véler.
Je me dis, heureusement qu'il y a des déchets, sinon les archéologues ne pourraient pas travailler.
Ouais. C'est une façon de voir les choses.
Bientôt, ce sont ceux qui travaillent sur la science marine qui pourront plus travailler à cause des déchets. Ouais, le nombre d'animaux marins que ça tue.
D'ailleurs, vous, dans votre livre, hein, on sent que la question écologique est présente à plusieurs reprises. Souvent, alors, ils arrivent sur des plages qui sont souillées. Alors pourtant, c'est vraiment les Malouines. C'est quand même un lieu isolé. On est au milieu de tout, au cœur des 50e hurlants, à 1200 km des côtes de l'Antarctique. Et pourtant, enfin de l'Arctique, et pourtant on se dit le plastique arrive jusque-là.
Oui, je me souviens arriver un matin sur une immense plage, c'est une plage de sable blanc à Grave Cove dont on parle dans le livre. C'est une plage de sable blanc avec des eaux turquoises, et là d'un coup, une centaine de manchots sortent de la mer, comme ça, ils s'ébrouent et tout. Le regard se porte d'abord sur eux, et quand l'émotion est passée, on élargit autour. Il y avait des tons roses, des canettes de bière, des filets abandonnés, et puis plein d'objets de la consommation de la vie quotidienne. Et en fait, les courants marins, à partir du moment où on jette un objet loin d'une poubelle et qu'on sait que très peu de plastique en plus est recyclé, le vent va l'emmener dans un cours d'eau qui va ensuite l'emmener dans l'océan. Et par le jeu des courants marins, ça peut se retrouver à des milliers de kilomètres. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait très mal quand on y est. Et je me souviens d'ailleurs que ça révoltait les adolescents, certains des adolescents que j'ai pu emmener et qui voyaient ça. Parce que pour eux, c'était très tangible en fait. Ouais. Puisque en fait, ils n'ont aucun lien dans leur vie avec les manchots. Mais là, d'un coup, il y avait un lien qui se crée, un trait d'union qui se crée. Ouais.
Avec une autre référence aussi, cet incendie qui se déclare dans votre livre. C'est une des îles particulièrement riches en biodiversité sur laquelle se déclare cet incendie. Et là aussi, c'est l'occasion de rappeler que le climat a changé et que du coup, c'est plus sec et que l'incendie a plus de force pour se propager.
Voilà, en fait, on est sur des territoires où c'est très fin, hein, les écosystèmes. Donc, sur ces territoires-là, un changement du climat, un changement d'une variable peut provoquer des réactions en chaîne. Et aux Malouines, aujourd'hui, une de leurs grandes craintes, c'est justement des saisons de plus en plus sèches avec de moins en moins d'eau, et on est sur des territoires de tourbe. Donc, il suffit qu'en fait, il y ait une toute petite étincelle, et ce sont des îles entières qui partent dans des lieux où la caserne des pompiers, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas à portée de main. En plus, même si elle intervient avec des moyens aériens, il y a tellement d'oiseaux dans le ciel qu'en fait, ils ne pourront même pas intervenir.
Oui. Alors, vos héros sont des adolescents avec leur fragilité, leur flemme parfois aussi, et leur enthousiasme aussi, bien sûr. Ça tranche avec la figure de l'aventurier baroudeur, gorgé de testostérone. Je dis ça parce que vous publiez un autre livre aux éditions du Seuil sur la virilité, Mal d'hier, homme d'aujourd'hui. Et c'est après avoir traîné avec aussi des reporters de guerre, des marins, que vous vous êtes interrogé sur la figure un peu de la virilité.
Ouais, complètement. La virilité à l'ancienne, c'est, vous savez, cette idée du dépassement de soi. Je vais aller me taper un 8000, etc. Et moi, en fait, j'ai traîné avec tous ces gens-là, et alors je me suis rendu compte que j'en étais pas capable, et que je prenais plus de plaisir à m'émerveiller d'un coucher de soleil. Et je me suis dit, tiens, je suis peut-être un homme de 2018, peut-être. Donc j'ai essayé de réfléchir à ces questions. Et effectivement, il y a une nouvelle forme d'aventure à réimaginer aujourd'hui, puisque se dépasser, je veux dire, à partir du moment où on va sur la Lune, je vois pas comment on peut plus se dépasser. Et donc je plaide, moi, à travers ces livres, pour une une aventure qui soit beaucoup plus simple, humble et humaine, oui, avec la nature et pas contre elle.
Et en tout cas, dans votre livre, c'est Marie-Lou, hein, une femme, donc la scientifique baroudeuse qui pilote les avions, et on l'a compris, elle existe vraiment, Marie-Lou. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Opération Manchot, aux éditions Pulp Fiction. Merci Ismaël Khelifa, et puis merci à tous les invités de ce club.
Merci beaucoup.
Dès lundi, Mathieu Vidard reprend les commandes de La Tête au Carré. Juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel.